Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Christine Rodriguez. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Toulouse, Jean Jaurès. Alors, maître de conférence en littérature ?
Littérature et art. Je travaille sur l'opéra et j'enseigne aussi sur l'opéra.
Si j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, c'est pour évoquer Carmen, un nom qui parle à tout le monde, puisque vous aviez écrit un livre coécrit avec Hervé Lacombe, qui était le biographe de Bizet, La Habanera de Carmen, Naissance d'un tube, un livre paru chez Fayard. Et c'est à l'occasion des représentations de Carmen dans ce lieu historique qui est l'Opéra Comique, représentation qui se termine le 4 mai, que j'ai désiré vous recevoir, puisque Carmen. Depuis quand est née cette passion pour Carmen, Christine Rodriguez ?
J'avais travaillé dessus pour mes recherches, ma thèse, comme on fait toujours à l'université. Et je travaillais sur les relations entre la littérature et l'opéra, donc sur la nouvelle de Mérimée, devenant ce livret de Meillac et Halévy, sur d'autres corpus français. Et j'ai trouvé ce qu'on fait quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on essaie de voir comment les librettistes vont chercher des choses intéressantes dans un récit. Alors, évidemment, ils vont chercher des dialogues, ils vont chercher forcément des grandes situations, des personnages, des grandes scènes un peu archétypales. Mais la Habanera en tant que telle, qui est le clou, évidemment, de cet opéra, ça n'existe pas dans la nouvelle de Mérimée. On n'a pas, à un moment, le personnage de Carmen qui entre et qui entonne un chant. Alors que, par ailleurs, dans la nouvelle, elle peut chanter, d'ailleurs, ou danser. Mais... pas, elle n'exécute pas une havanaise, par exemple, en plein Séville. Donc là, la grande question très intéressante, c'est où est-ce que ça se situe exactement dans le récit, d'où ça vient, est-ce que c'est une invention pure ? Bon, maintenant, je soutiens toujours que rien ne s'invente quand il y a une vraie transposition, donc je le crois. Et bien entendu, elle n'est pas inventée, c'est-à-dire elle est extraite tout droit d'une scène particulière. C'est un entre-deux-lignes et c'est une transposition absolument géniale qui magnifie le texte et qui est d'une justesse rarement atteinte en matière de transposition. Donc c'est à partir de là que je me suis dit, mais j'avais fait une communication à la Sorbonne, mon directeur de recherche de l'époque m'avait proposé de venir faire une intervention, et c'était très intéressant. Et à partir de là, je m'étais dit, mais il y a peut-être au moins un article à faire, il faudrait le creuser. Puis c'est devenu un projet de livre, et un projet de livre avec Hervé Lacombe. Et puis ça a été passionnant de travailler ensemble déjà, et de travailler sur ce sujet. Donc voilà comment c'est né.
Christine Rodriguez, justement, pour préparer cet entretien, j'ai fait une chose que je n'avais pas faite jusqu'à présent, c'est lire la nouvelle de Mérimée pour voir tout ce qui a été fait par Meillac et Halévy, Bizet et Célestine Gallimarié, on va en parler, qui était la créatrice du rôle de Carmen. Et on est quand même très éloigné quand on lit la nouvelle de Mérimée, qui est en quatre parties. En fait, c'est un narrateur qui va se retrouver confronté à Carmen et Don José, puis après il va y avoir il va les retrouver,
oui,
dans d'autres circonstances.
Oui, c'est le récit dans le récit, un moment. Oui, ce n'est que le chapitre 3 qui donne la parole à Don José, qui est en prison, qui va mourir le lendemain. Il est condamné à mort parce qu'il a tué Carmen. Et il raconte au narrateur tout ce qui lui est arrivé du début à la fin. Donc c'est un récit chronologique. Et Meillac et Halévy, bien sûr, ont transposé ce chapitre 3. Mais comme toujours, les librettistes, surtout de la trempe de Meillac et Halévy, qui ne sont pas des débutants quand ils travaillent avec Bizet, d'abord c'était des hommes très cultivés, et comme souvent les librettistes sont à l'affût, et ce sont pour moi des super lecteurs. C'est-à-dire ils font comme, c'est plus que scanner le récit, ils voient tout. Et donc ils prennent au-delà, par exemple typiquement là, ils prennent au-delà du chapitre 3, ils prennent aussi des choses dans le chapitre 1, le chapitre 2, qui sont pourtant hors récit de Don José. Mais par exemple il y a quelque chose qui est un petit peu... peut-être un peu subtil comme fait de transposition, mais que je trouve intéressant, c'est que tout à fait au début, donc dans le chapitre 1, le narrateur rencontre José. Et c'est déjà un bandit qui a déjà souffert, il a déjà commis beaucoup de crimes, il a déjà été blessé, il est hagard, il se cache dans un endroit très reculé. Et il est présenté comme un bandit un peu romantique, mais surtout comme quelqu'un qui souffre et Il y a une petite scène, par exemple, qui est très emblématique, où ils partagent des cigares, ils partagent quelque chose à manger, et ils se retrouvent dans une espèce de venta, comme d'auberge un peu misérable. Et là, José décroche un instrument et va chanter en langue basque. Il chante un air de son pays et il est tout d'un coup, il s'abîme dans la tristesse et dans la nostalgie. Évidemment, ça, ce n'est pas transposé dans le livret de Meyaka et Alevi, mais ils ont retenu une chose, et ça devient le duo entre Micaela et José, c'est la nostalgie du pays. Les souvenirs d'autrefois, aux souvenirs d'autrefois, je revois mon village, etc. Et de commencer la nouvelle et de commencer l'opéra par un retour sur le pays perdu que l'on va perdre bientôt définitivement, puisque après le passage de Carmen, c'est la dévastation totale et le retour à l'innocence est complètement impossible. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est comment de voir comment des librettistes vont tellement bien lire l'œuvre qu'ils ont compris que ça commence déjà par quelque chose de perdu, de nostalgique. Donc ça, c'est vraiment formidable de regarder ces relations.
Puis alors, il y a des personnages qui ne sont pas dans la nouvelle. Micaela, donc la fiancée de Don José.
Oui, alors moi, j'ai l'habitude de dire qu'elle n'est pas inventée. D'abord parce que je ressasse que rien ne s'invente. Parce que quand on lit, surtout quand on est un grand librettiste, comme ils l'étaient eux, on voit tous les liens. Ils voient toute l'analogie. Et donc Micaela, c'est un personnage qui, bien sûr, elle a l'air inventée comme ça, mais dans la nouvelle, José dit bien, en parlant à l'officier, il dit « Moi, je viens de Navarre, je ne suis pas d'ici, et les Andalouses me font peur, elles sont un peu, elles sont un peu dévergondées, et je suis habituée, les femmes que je connais, ce sont les filles de la Navarre, qui sont sages, qui ont des nattes... donc des cheveux bien sagement tressés, des jupes bleues, un portrait de jeune fille du pays et qui évidemment aux antipodes d'une Andalouse dévergondée. Et Micaela, elle vient de ça, de cette représentation des filles du pays du Nord. La Navarre est dans le Nord, donc on a une sorte de conflit Nord-Sud. Et bien entendu, pour un opéra comique dont la structure est complètement polarisée en grand contraste, c'était les opéras, bien entendu, d'Aubert, de Scribe, etc. Ils écrivaient comme ça, c'est-à-dire pour que ce soit bien lisible, il faut qu'il y ait une grande polarisation, que ce soit bien contrasté, que le public s'y retrouve. Rien de mieux que d'exhumer de cette petite ligne « Moi, j'ai peur des Andalouses parce que je ne connais que les filles sages avec des nattes tombant sur les épaules et des grandes jupes bleues ». Et bien évidemment, Micaela, elle est née tout droit de ça. Donc elle n'est pas inventée, elle sert tout simplement à polariser Nord-Sud, Andalouse, gitane, bohémienne, qui n'a pas de racines, et évidemment une jeune fille pudique, innocente, qui vient du Nord et qui est sage. Donc elle est très utile et elle n'est pas inventée.
Christine Rodriguez, alors votre livre « La Habanera de Carmen, naissance d'un tube » coécrit avec Hervé Lacombe, vous évoquez un sujet, alors c'est un peu comme la lettre de volée d'Edgar Poe, c'est-à-dire c'est vraiment sous notre nez et puis on n'y a pas pensé, c'est pourquoi cet air de la Habanera, l'amour est enfant de bohème, qui n'a jamais connu de loi, s'il ne m'aime pas, je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Pourquoi ça, c'est devenu un tube universel qui fait que des gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'opéra, voilà, tout le monde connaît cet air. Vous rappelez dans votre livre toutes les adaptations, enfin un certain nombre d'adaptations en variété ou d'autres domaines musicaux ou dans toutes les publicités où c'est utilisé. Pourquoi cet air-là particulièrement ?
Alors bon, c'est la question qui nous a passionnés. Hein. Pourquoi ? D'abord, quand quelque chose devient phénoménal et planétaire, c'est déjà très intéressant de le questionner, même s'il faut d'emblée, je pense, dire que ça touche forcément au mythe, on dit toujours mythe, Carmen est mythique, ça touche au mythe, donc ça touche au mystère, hein, mythe et mystère c'est lié, et quand il y a mythe et mystère, je pense, hein, ça veut dire qu'il y a une question d'origine, puisque l'origine est toujours perdue, l'origine est toujours mystérieuse. Et je crois que la Habanera pose une question d'origine, donc de mystère, donc devient mythique, donc est susceptible de devenir planétaire, et cette question d'origine et de mythe, c'est qu'incarne très bien Carmen, puisque c'est une gitane, donc on ne sait pas d'où elle est. Elle est faussement de l'Espagne du Sud, elle est en réalité d'un pays perdu. Et elle pose le problème du mythe de l'amour. Donc je pense que c'est tout ce complexe thématique, origine perdue, mythe de l'amour. On sait par exemple très bien, c'est une chose universelle, qu'on ne sait pas vraiment d'où viennent les sentiments. Pourquoi je tombe amoureux de telle personne ? D'où vient mon sentiment ? Pourquoi le désamour ne s'explique si mal ? c'est fini, rien n'y fait, comme dit la Habanera. La naissance du sentiment, la fin du sentiment, c'est définitivement un mystère. Et puis un autre axe qui peut-être m'apparaît au fur et à mesure des années quand je retravaille sur Carmen, qui est peut-être le plus célèbre, mais qui ne me paraissait pas si facile à comprendre au départ, c'est l'aspect sexuel de la Habanera et de Carmen, c'est-à-dire un peu comme dans Le sexe et l'effroi de Quignard, c'est-à-dire ces grands mystères anthropologiques. Le gitan, le bohémien, qui représente un peu dans la mythologie mérinéenne ou dans son imaginaire les énergies primitives, les énergies du sauvage, les grandes forces sauvages. Donc Carmen représente ça, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau, je dirais, du sexuel, pour ne pas dire la sexualité, hein, des grandes forces primitives, et puis également du sentiment, c'est-à-dire ces deux grands mystères de l'être humain. Et ça s'est incarné dans un personnage de gitane qui, grâce à Galimarié et au génie de ce compositeur...
Galimarié, donc la créatrice du rôle,
voilà,
je le rappelle.
Voilà, la créatrice du rôle, qui a obligé Bizet à chercher... ce genre de la Habanera, puisqu'il y a
13 versions, vous nous dites, dans votre
oui,
livre.
Oui, c'est un peu ce qu'on a dit, on ne sait pas si c'est exactement ça. Mais il avait proposé un air d'entrée, hein, c'est-à-dire l'air du personnage quand elle rentre en scène, avec un texte qu'il avait déjà proposé lui-même, en partie écrit aussi par les librettistes. Et en fait, cet air était un peu musique française, un peu gounodien. Et Galimarié, qui avait déjà chanté une bohémienne, qui avait déjà chanté des habaneras, parce que c'était le genre en vogue, en fait.
Alors, juste, excuse-moi de vous interrompre, oui. Christine Rodriguez, la habanera, donc, ça vient de la Havane, mais c'est passé par d'autres lieux. Donc, c'est une mélodie avec un rythme très particulier.
Oui, alors c'est ça le génie, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé, pour incarner une bohémienne évoquant les mystères dont on vient de parler, un genre exotique, qui colle à la peau complètement du propos et du personnage. C'est ça le coup de génie. Et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment, quand le génie trouve la formule, ça a pu se détacher. C'est-à-dire la Habanera s'est détachée de l'opéra. Et comme vous le disiez, beaucoup de gens, c'est-à-dire quasiment personne ne connaît pas la Habanera, mais beaucoup de gens ne savent pas même que ça vient de l'opéra de Bizet, alors quant à Mérimée, on l'a complètement oublié, quoi. Et en fait, le genre de la Habanera, c'est tout le travail qu'on a fait, Hervé Lacombe a retracé toute l'histoire de façon vraiment merveilleuse. C'est-à-dire que ce genre même est nomade, c'est-à-dire que c'est au départ une danse qui vient de la contredanse européenne, là aussi origine, donc mystère sur l'origine, on ne sait même pas si ça vient de France ou d'Angleterre, cette fameuse contredanse, en tout cas ça vient d'Europe, ça arrive à Cuba, ça se, donc dans un contexte colonial, ça se mixe, c'est ce qu'on appelle la créolisation de la musique, c'est-à-dire ça se métisse avec des rythmes africains venant évidemment de l'esclavage à ce moment-là. Donc on a une contredanse de type européen qui s'enrichit de rythmes africains, tout ça dans un contexte antillais. Donc ça devient, c'est au départ une danse, ensuite ça migre vers l'Espagne, c'est identifié comme danse ou chanson espagnole, ça arrive en France, enfin c'est tout un voyage en fait. Hein. Donc ça représente le nomadisme, l'exotisme. Je pense que c'est ça qui explique le succès planétaire, c'est que c'est profondément exotique, mais au sens, l'exotisme c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans nos thématiques modernes l'autre. L'autre avec différents types d'êtres autres, hein, c'est homme-femme, c'est l'étranger, l'autochtone, c'est, enfin, il y a mille façons d'être autre, mais je pense que c'est ça hein, qui rend si célèbre.
Oui, en même temps, Carmen, c'est l'opéra français le plus connu dans le monde, donc ça symbolise en même temps la France.
C'est ça qui est étonnant. Oui, c'est le coup de génie, mais même c'est cette contredanse. Hein. Alors, on ne sait pas si c'est français ou anglais. Alors, ce qui est très drôle, c'est que dans un contexte de colonie, quand ça gêne, les gens ne veulent pas trop que ça vienne de chez eux, parce qu'il ne faut pas trop rappeler les mauvais souvenirs. Mais en tout cas, ça vient d'Europe. Donc, la France est partie prenante aussi, et évidemment dans l'opéra. Mais c'est aussi ça, le coup de génie de la Habanera. C'est-à-dire, au début de l'opéra, ce sont donc des personnages qui sont à Séville, donc des Espagnols, qui chantent en langage qui ressemble quand même énormément à de la musique française, donc même, je dirais, de la musique parisienne. Donc ce sont des Sévillans qui chantent en musique parisienne, on va dire, pour simplifier. Et tout d'un coup, à ce moment-là, entre une gitane qui chante non pas une chanson espagnole, mais une chanson de type havanais qui a des connotations exotiques. Et donc déjà, elle n'est donc, elle, ni espagnole ni française. Elle est d'ailleurs. Et c'est ça qui vraiment singularise le personnage et qui lui donne la capacité de recevoir tous ces grands mystères, l'amour, le sexuel, etc., dont on a parlé. C'est ça, la force. Hein. Et c'est ça qui fait qu'elle peut toucher tout le monde. C'est-à-dire qu'elle a en elle quelque chose de l'ailleurs.
Et ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est quand même ce qui est étonnant, c'est que cette habanera donc, qui résulte du travail commun des librettistes Meyaké Halévy, du compositeur Bizet et de la créatrice du rôle Célestine Galimarié, en fait, c'est très différent d'un chant d'amour habituel à l'opéra, comme on peut avoir dans tout ce qui nous fait tellement plaisir quand on écoute un opéra de Verdi ou tout le bel canto ou des opéras français. Voilà, mais c'est pas un chant d'amour, parce qu'en fait, elle lui dit vraiment prends garde à toi. D'ailleurs, c'est pas ça qui était prévu au départ.
Il y a beaucoup de jeux de mots sur ces. C'est vraiment ça, effectivement. C'est exact, vous avez tout à fait raison. Ce qui est le coup de génie.
C'est pas moi qui ai raison, c'est vous, puisque je reprends ce que vous dites dans votre livre.
Mais étudier le texte de cette habanera, c'est vraiment très intéressant. Moi, je l'adore, ce texte, parce qu'il n'a pas d'âge. Il n'est pas stylistiquement comme un texte du 19e. Quand on écoute, par exemple, Dieu sait s'ils sont beaux, hein, des leaders, par exemple, le texte d'un lead, parmi les plus beaux, on peut prendre un lead magnifique, très souvent, le texte est totalement insipide. Enfin, c'est du stéréotype sentimental. Heureusement que la musique est là pour dire quelque chose de magnifique. Le texte de la habanera, il est très intéressant parce qu'il a une simplicité magistrale. On peut le placer au 20e, 21e siècle. Il est quasi monosyllabique et il dit des choses un peu désagréables de façon radicale, sans poésie, sans vulgarité. Il n'y a pas une once de vulgarité. Ça, c'est intéressant par rapport aux mises en scène hein, qui ont beaucoup utilisé le vulgaire au sens polysémique du terme, hein, c'est-à-dire ce qui concerne vraiment la foule, le peuple et aussi l'obscène. Mais le texte n'a strictement rien d'obscène. Il est très simple. Et effectivement, ça n'a rien de sentimental au sens... ce n'est pas de l'amour romantique dont on parle. Hein, c'est du comportement, c'est très actuel. Hein, c'est du comportement capricieux du cœur humain, ce qu'on disait tout à l'heure.
À l'opéra comique, c'est Gaëlle Arquès qui est une grande Carmen qui incarne le rôle titre. Oui. Vous l'avez rencontrée, Christine Rodriguez.
Oui, j'ai eu ce plaisir de rencontrer Gaëlle Arquès, qui est une somptueuse chanteuse, une femme magnifique, une très belle chanteuse, une très belle personne. Elle incarne une Carmen que moi j'aime beaucoup personnellement, peut-être parce que c'est ma vision de Carmen, hein, donc ça m'était facile d'aller vers elle sur cette vision-là. C'est-à-dire une Carmen qui a une sorte de gravité dans son chant, qui amène tout naturellement vers la scène finale. Même si Carmen, à l'opéra, a quelque chose de solaire, on l'a beaucoup dit, elle est très joyeuse, elle a cette énergie exemplaire, extraordinaire, qui fait qu'elle emporte tout, il y a dès le départ avec la habanera une gravité qu'on ne peut oublier. Et le chant de Gaëlle, son personnage, cette classe qu'elle a extrême, même dans les scènes de grande gaieté, etc., font qu'on est tout naturellement porté sans clichés, sans stéréotypes, vers la scène finale. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié effectivement sa façon de chanter, même, je dirais, son attitude corporelle sur scène, etc. Pour moi, c'est une très belle Carmen. Ouais.
Pour préparer votre livre donc consacré à la habanera, vous aviez rencontré deux autres très grandes Carmen. L'une, la regrettée Teresa Berganza, qui nous a quittés depuis, et puis une autre grande Carmen, Béatrice Oya Monzon, qui aussi vous ont donné des visions de Carmen. Teresa Berganza était un peu une révolutionnaire dans le domaine, parce que justement, elle a eu une conception qui était loin de tous les clichés.
Totalement, et Béatrice d'ailleurs lui rendait hommage, était dans ses pas. Hein. Deux chanteuses espagnoles, c'était très intéressant, deux femmes magnifiques. Teresa, elle m'avait expliqué qu'elle avait mis beaucoup de temps à accepter Carmen, mais en réalité, ça, c'est un parcours que font souvent les grandes Carmen. Je crois que c'était le cas aussi de Gaëlle. C'est-à-dire, c'est pas facile et c'est effrayant de chanter Carmen pour des chanteuses.
C'est quand même un rôle mythique, tout le monde connaît, même quand on n'y connaît rien.
Oui, et puis le personnage peut être un peu effrayant scéniquement. Et puis pour ce qui était de Berganza, qui était dans le répertoire du bel canto,
Rossinien, mozartien.
C'était effrayant pour sa voix. C'était effrayant pour sa voix. Donc, elle a mis du temps. Et puis, à un moment, j'ai oublié maintenant quel était le metteur en scène qui l'a un peu mis au pied du mur, c'est un de ses amis. Il lui a dit, bon, maintenant, c'est maintenant ou jamais. Et elle a dit, c'est maintenant, d'accord. Et effectivement, moi, je pense que sa technique très raffinée lui a permis de faire... Parce que Mozart était vraiment un grand modèle pour Bizet. Il y a quelque chose de raffiné aussi dans toute cette musique. Hein. C'est populaire et savant. Il y a quelque chose de très savant et je crois que Berganza a incarné, par son refus de faire là aussi du vulgaire simple, elle a incarné une magnifique Carmen. Très joyeuse hein, pour elle, c'était un personnage qui devait être à la fois joyeux et cassant, c'est-à-dire sans faire de fioritures. Je me souviens quand elle m'expliquait, surtout la scène finale, c'était une très belle façon de l'expliquer. Elle disait, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup, c'est fini, stop. Stop. Et Béatrice aussi, je pensais sur cette ligne-là, c'est-à-dire ne pas en rajouter dans la dramaturgie et avoir cette espèce de sévérité intérieure. Ce sont de belles idées parce que quand on lit Mérimée, là, on est très proche de cette espèce de couperet. Rien n'y fait, c'est terminé, c'est inutile, etc. Elles sont là-dedans. Hein.
Teresa Berganza l'avait fait d'ailleurs avec un grand chef, Claudio Abbado. Donc voilà, c'est-à-dire oui, à quel point voilà, il tenait les deux en estime la musique de Bizet et cet opéra-là. Oui. Gaël Arquès est aussi avec un chef magnifique qui est Louis Langrée, qui a aussi un amour du chant français.
Du chant français et puis français. De sa diction, de ce que j'en ai vu en répétition, ça aussi c'est très intéressant. Alors évidemment c'est lui qu'il faut interroger, c'est pas moi, mais d'après ce que j'en ai vu c'est effectivement sur l'articulation, la noblesse du rythme de la phrase française, ça se prête vraiment merveilleusement à cet opéra.
Ce que vous disiez dans votre livre aussi, alors c'est un peu anecdotique, mais ça aussi je ne savais pas, c'est que c'est le premier opéra français qui a été représenté en Chine.
Oui.
Carmen, en 1982.
Oui.
Enfin, c'est dire la popularité à l'époque en Chine vraiment communiste.
C'est vrai que c'est le premier en Chine, c'est le premier opéra représenté du répertoire français, mais. Il a fait le tour du monde bien avant. Enfin, c'est un opéra qui a une popularité phénoménale, hein, extraordinaire.
Oui, d'ailleurs, vous parlez aussi des adaptations cinématographiques. Et oui. Il y a eu cette adaptation par Otto Preminger d'une comédie musicale d'après Carmen, avec justement celui qui vient de nous quitter aussi, Harry Belafonte, et Dorothy Dandridge, qui était doublée par Marilyn Horne, une grande Carmen.
Oui.
Ce film avait été interdit en France à cause des ayants droit.
Voilà, c'est des librettistes. C'est des histoires de droit. Oui, ben, le cinéma, la danse, il y a eu de très très grandes transpositions de danse. Moi, c'est presque ce que je préfère.
Oui, il y a même Charlot, un des premiers films, c'est Charlot qui joue Carmen.
Et je pense les grandes transpositions espagnoles, russes, de chorégraphiées, je pense que là, on touche vraiment à quelque chose de très juste. Hein. C'est très difficile hein, de faire autre chose que l'opéra de Bizet, mais il y a eu de magnifiques réalisations. Hein. De toute façon, le mythe, tout le monde a droit de prendre où il veut, comme il veut. Il n'y a rien de plus démocratique. Hein. Donc, on fait ce qu'on veut avec le mythe. Il y a eu beaucoup de choses. L'intérêt, enfin pour nous, avec Hervé Lacombe, c'était de ne pas émettre de jugement de qualité, mais de regarder l'extraordinaire potentiel, de la plasticité extraordinaire de ce qui a été fait à partir de la Habanera, bien entendu, essentiellement. C'est surtout la Habanera qui a donné lieu à mille et une versions. Et ça continue, bien entendu. On pourrait faire des mises à jour continues. Bon, ce n'était pas du tout notre but, mais on a clairement vu que c'était infini, que ça ne s'arrêterait pas et que c'était multi-support.
Oui, mais alors, au risque de poser une question, peut-être que vous allez considérer comme déplaisante, Christian Rodriguez, est-ce que cette Habanera, justement, qui a tant fait pour la popularité de Carmen, est-ce qu'en même temps, elle ne lui nuit pas, ne donne pas une vision caricaturale de cet opéra, dont le reste de la musique est sublime aussi?
Oui. Peut-être. Mais c'est ça le mythe, c'est ce côté démocratique, c'est-à-dire c'est le meilleur et le pire. C'est-à-dire oui, certainement qu'elle a fait pour la popularité et puis a fait dans le mauvais côté, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et c'est aussi, ça fait connaître, c'est aussi une dimension de l'opéra, parce qu'il ne faut pas tout ramener à la Habanera, mais dans la popularité de l'opéra de Bizet, je pense qu'il y a le fait qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle chant dans le chant, beaucoup de chansons. Il y a bien sûr la Habanera qui est l'air d'entrée, mais il y a la Seguedi, il y a l'air des cartes, il y a le dragon d'Alcala,
oui, ou l'air du toréador.
L'air du toréador, c'est des chansons que les personnages chantent comme on chante et pas chanter comme on parle à l'opéra. Et donc il y a quelque chose de festif dans ce côté. On célèbre le chant dans sa puissance communautaire. Le chant, ça sert à célébrer depuis toujours. On célèbre tous les grands rites avec du chant. Et il y a beaucoup de ça dans Carmen, l'opéra. Pas dans la nouvelle, mais cet extrait là aussi. Cet extrait de ça, c'est-à-dire il y a beaucoup de communautés différentes, une grande présence des chœurs dans l'opéra et beaucoup de chants dans le chant. Et la Habanera, c'est la première grande chanson. Mais je pense que l'opéra est également très célèbre pour ça. C'est-à-dire qu'on y chante beaucoup en vrai. On y chante des chansons en vrai.
Alors votre livre, donc La Habanera de Carmen, Naissance d'un tube, il parle justement de la genèse par rapport à la nouvelle de Mérimée, la genèse de cette Havanaise et sa popularité et sa postérité. Vous consacrez une large partie de votre travail justement à l'adaptation de textes littéraires à l'opéra. Carmen, c'est une de vos grandes passions. Il y en a d'autres, Christine Rodriguez.
Ah oui, alors ça reste vraiment intéressant de regarder les transpositions. J'ai travaillé un peu l'année dernière sur Roméo et Juliette, donc c'est très intéressant le théâtre aussi transposé. Je l'avais pour l'instant jamais fait. Je travaille surtout sur les récits, puisque les récits, je continue à le penser. Hein, les récits sont vraiment de grands archétypes pour la scène, donc pas simplement pour l'opéra. Mais l'opéra a commencé en transposant des récits, puisqu'il est arrivé tardivement dans l'histoire des spectacles au XVIIe siècle. Il a tout naturellement puisé dans les récits. Donc analyser les récits transposés, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est l'histoire des spectacles depuis les premiers spectacles dans l'histoire de l'humanité. On puise dans les premiers récits. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Dès qu'il y a un récit transposé, ça demande beaucoup, beaucoup de temps de faire une analyse de transposition parce qu'il y a plein de niveaux différents et qu'il y a des choses évidentes. Et puis après, il y a les choses comme la Habanera qu'il faut aller extraire. Il y a aussi des niveaux où on a l'impression que tout est inventé. Et je répète encore, je pense que ce n'est pas inventé. Donc c'est un travail d'approfondissement, un peu de spéléologue. Mais ça m'intéresse toujours, hein, beaucoup.
Dans votre livre, il y a toute une analyse justement du texte de la Habanera, oui, avec les pronoms, parce qu'en fait, oui, ça commence par « L'amour est enfant de Bohème ». En général, quand il y a un chant d'amour ou dans un opéra, on s'adresse à l'autre, on dit « je t'aime », etc. Là, pas du tout.
Oui, il y a « je tue il ».« Tu crois l'éviter, il te tient. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ». Donc, on a ce « je tue il ». Qui m'a intéressée parce que c'est interchangeable. C'est-à-dire que Carmen s'adresse à une foule. Moi, je crois, ça peut être discuté et discutable, hein, mais moi, j'ai toujours vu Carmen comme une sorte de grande prêtresse, comme une pitié. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle devient allégorique. Elle ne parle pas en tant que femme fatale. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec ce terme-là. Elle ne s'adresse pas à des hommes. C'est tout d'un coup quelqu'un qui incarne quelque chose et qui s'adresse à une communauté d'hommes et de femmes. Et elle parle du sentiment « je tue il », c'est-à-dire un petit peu comme dans la vie courante quand on dit « tu fais ceci et il t'arrive cela », c'est un « tu » générique. Donc « il te tient », par exemple, « tu crois l'éviter, il te tient ». « Tu crois », ça veut dire « je crois ». Je croyais l'éviter, il me tient. Et il te tient, ça veut dire tu aimes ou j'aime. C'est interchangeable. Et donc ce caractère interchangeable est très compliqué à analyser parce que c'est à la fois la non-réciprocité, hein, qui est beaucoup dite dans la Habanera. Hein, si je ne t'aime pas, ou si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et cette non-réciprocité qui explique... peut-être aussi la triangulation, c'est-à-dire pourquoi Carmen fonce sur José qui ne la regardait pas et qui ne l'aimait pas. Donc c'est toute la mise en scène d'ailleurs dans la Habanera, la mise en scène de cette fleur jetée entre les deux yeux qui déjà est contenue dans le texte.
Déjà dans Mérimée, il y a l'histoire de la fleur.
C'est la transposition directe, textuelle d'ailleurs, des dialogues de Mérimée. Et même Meillac et Halévy avaient inscrit dans la partition, au moment de l'air d'entrée, exactement le costume et l'entrée proposés par Mérimée. Ils écrivent ça sur la partition. Je ne sais plus si c'est eux ou si c'est même Bizet qui a écrit. Je crois que c'est Bizet qui avait écrit ça. Il faudrait que je relise.
De toute façon, c'est inépuisable, votre sujet.
C'est inépuisable, oui, c'est un sujet difficile, inépuisable, très riche, parce que c'est universel. Donc c'est forcément, il faut admettre que devant le génie, on n'épuise pas.
Mais d'ailleurs, ce qui est quand même incroyable, mais Meillac et Halévy, c'est formidable librettiste, mais on les connaît beaucoup pour le travail qu'ils ont fait avec Jacques Offenbach. Donc on est quand même...
D'où la grande gaieté, d'où ben, l'officier, etc. Tout c'est au moment de la scène, non du meurtre, mais de l'emprisonnement de l'officier. Hein. Donc c'est une scène qui n'est pas du tout aussi sombre que dans le récit. Donc il y a ce côté opérette, très légère, mais qui est très bien, parce que même dans le récit de Mérimée, il y a une ironie du narrateur qui impose deux registres, deux niveaux, et ils y sont aussi dans l'opéra. Donc je pense que la gaieté participe de cette énergie dont on a parlé tout à fait au début, cette énergie du monde sauvage, qui est également très destructrice, mais très joyeuse, avec une très grande capacité de joie que n'ont pas les êtres civilisés qui sont moins capables de grands excès. Donc des grands excès de joie, des grands excès de profondeur dramatique, Meillac et Halévy, par leur culture de la gaieté, l'ont très bien écrit dans l'opéra.
D'ailleurs, vous parliez de la noblesse de la conception du rôle de Teresa Berganza, Béatrice Oyarzun ou Gaëlle Arquez, ce rôle qui est parfois justement interprété de manière un peu vulgaire. Et alors même que Carmen, c'est une femme qui travaille, elle travaille dans une manufacture de tabac.
Oui, alors ça aurait fait plaisir à Teresa Berganza de vous entendre. Alors moi, je ne suis pas totalement d'accord, je lui avais dit que je n'étais pas totalement d'accord parce que... La cigarière, s'il n'y avait pas eu l'opéra, Carmen, elle se fait virer, si vous me permettez l'expression.
Parce oui, à la suite d'une bagarre.
Oui, à mon avis, pourquoi? Alors, ce n'est pas dit, mais pourquoi va-t-elle dans la manufacture? Bon, d'abord, il y a un arrière-plan historique très intéressant à la grande manufacture de Séville, qui était un bâtiment historique très moderne à l'époque. Mais tout donne à penser qu'elle va là parce qu'elle a des relais... elle maîtrise les espaces, la Carmen de Mérimée. Elle maîtrise parfaitement tous les...
Elle passe son temps à voyager, d'ailleurs.
Elle fait... Elle a une sorte de don d'ubiquité. Elle passe de Malaga à Séville, à Cordoue, etc. Mais on ne sait jamais où elle est. Et en fait, elle maîtrise un peu comme, je pense, la grande délinquance, les grands mafieux. Elle maîtrise les espaces. Et elle a des relais partout pour... tracer comme une toile d'araignée tout le trafic de contrebande. Donc son passage éclair à la manufacture, c'est aussi, tout donne à penser que c'est aussi, bon, c'est pas un vrai travail, Carmen n'est pas une honnête travailleuse comme le voulait absolument Berganza, qui voulait qu'on défende son personnage. Donc je pense pas que c'était une ouvrière honnête qui vient là, et ce qui prouve que Carmen était une fille honnête. Mais ce débat sur son honnêteté, ça n'est pas, enfin, on n'a même pas à l'avoir.
En tout cas, Christine Rodriguez, on pourrait vous écouter 1000 heures parler.
Merci
encore
beaucoup,
de La Habanera et de Carmen, ce sujet, cet opéra inépuisable qui donne une telle joie en plus quand
oui,
on
c'est...
le voit. Bon, ça
quand
se termine de manière
plonge,
tragique. Mais c'est...
Oui, c'est inépuisable aussi. José, quand il rencontre Carmen, il dit au narrateur, là, quand il est dans sa cellule... On ne s'ennuyait
ça,
pas.
Ça, c'est la nouvelle de Mérimée.
Oui, il lui dit de façon pudique, pour voiler évidemment tout le contenu, il dit on ne s'ennuyait pas avec cette fille-là. Et on ne s'ennuie pas avec cet opéra-là. Il est vraiment extrêmement passionnant, tout le temps.
Comme est passionnant votre livre La Habanera de Carmen, Naissance d'un tube, coécrit avec Hervé Lacombe, paru aux éditions Fayard. Christine Rodriguez, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir
Merci
été mon invité.
Merci à vous, avec plaisir.